Deux jours et demi à huis clos et hors de Nouméa, les délégations reprennent les négociations autour du ministre des Outre-mer cet après-midi. C'est le premier titre du journal que nous développerons dans un instant. Manuel Valls qui s'est rendu ce matin au Medipôle. Les professions médicales publiques et privées l'ont alerté sur le manque d'effectifs, la charge de travail et l'insécurité pour pouvoir recruter du personnel soignant. Dans la région, la victoire sans appel du camp du Premier ministre sortant lors des élections générales en Australie. La droite va devoir se reconstruire, nous dira notre correspondant Jean-Pierre Zajac. En métropole, François Bayrou envisage un référendum sur le budget 2026, une proposition loin de faire l'unanimité. Un homme enlevé séquestré pendant deux jours à Paris, ses ravisseurs voulaient soutirer de l'argent à son fils qui a fait fortune dans la crypto-monnaie. Et puis à Rome, les cardinaux entrent en conclave mercredi, la période de deuil du pape François est terminée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine des sports du lundi comme chaque semaine. Bonjour Léo Fichou.
Bonjour.
Et nous parlerons notamment en rugby pour faire un point sur les demi-finales de la Champions Cup.
Oui, l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles qui a pris sa revanche sur le Stade Toulousain 4 ans après, les Bordelais qui se sont qualifiés donc pour la finale de la Champions Cup. Victoire 35-18. En finale, ils affronteront les Saints de Northampton.
Et puis on parlera Formule 1 avec le Grand Prix de Miami.
Troisième victoire consécutive pour Oscar Piastri. Il devance son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. George Russell complète le podium sur Mercedes. Les Français terminent 11e, 12e et 13e.
Et le sport sur le territoire et avec nos invités, nous parlerons du meeting Total Énergie du CNC qui a lieu samedi prochain.
C'est le 29e meeting du CNC. Nous aurons avec nous Cécile Marquez, directrice du Cercle des nageurs calédoniens et puis deux invités de marque, la calédonienne Emma Terebo et le spécialiste du dos, 4e aux Jeux Olympiques de Paris, Mewen Tomac.
On se retrouve donc pour le magazine des sports du lundi dès la fin de cette édition.
Qu'on puisse aborder.
C'est donc aujourd'hui que l'on entre dans le vif du sujet des discussions sur l'avenir institutionnel. Après une journée de bilatérale mercredi, une brève séance plénière vendredi matin et de nouvelles discussions bilatérales vendredi après-midi, Manuel Valls et Éric Thiers réunissent les délégations calédoniennes en conclave au Sheraton d'Eva, Elisabeth Noir.
Oui, un conclave au Sheraton d'Eva, en réalité, ça veut dire plus simplement une réunion à huis clos et dans la plus grande discrétion. Avant de s'enfermer dans l'hôtel Bourailler, le ministre des Outre-mer devait faire à 11h un geste coutumier à la maison commune de Guaro. Et c'est cet après-midi, vers 14h30, que doivent reprendre les discussions sur l'avenir institutionnel. Le ministre des Outre-mer et le conseiller spécial du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie vont donc s'enfermer pendant deux journées et demie au Sheraton d'Eva avec les délégations calédoniennes pour tenter de trouver un accord. C'est peut-être aujourd'hui que le projet d'accord proposé par l'État sera remis aux participants, parce que l'on sait que le ministre ne l'a pas encore rendu public. Il en a toutefois présenté les grandes lignes à ses interlocuteurs, et on sait que les partisans de la France ont d'ores et déjà exprimé leur désaccord sur ce projet qui proposerait une souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. À Deva, on va donc parler avenir institutionnel, mais pas seulement. C'est ce qu'a laissé entendre Manuel Valls ce matin, alors qu'il rencontrait les personnels soignants du Medipôle. Il a été interrogé sur les thèmes abordés pendant ces deux jours et demi de conclave.
Je souhaite qu'on puisse aborder également les grands engagements sur l'avenir de la société calédonienne, les problèmes de logement, les problèmes de transport, les problèmes de jeunesse et de santé d'abord et avant tout, le redressement économique, la question du nickel, bien évidemment, les réformes qu'il faut. L'État s'est beaucoup engagé depuis des années, continuera à s'engager aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, mais à condition d'abord qu'il y ait un accord et ensuite qu'il y ait des réformes.
Ce week-end, les discussions sur l'avenir institutionnel ont été mises en pause, mais il y a tout de même des prises de position à relever. Celle du FLNKS, qui à la veille de la reprise des discussions, a tenu à informer la population et je cite « que les discussions en cours avec l'État français se déroulent dans un climat respectueux et constructif ». Le FLNKS qui ajoute que conformément au mandat confié par le 44e congrès de Saint-Louis, le FLNKS est déterminé à mener jusqu'à son terme l'exercice politique engagé avec pour objectif l'accession de Kanaky à sa pleine souveraineté et le traitement des sujets incontournables identifiés lors des différentes instances. Fin de citation. Et puis une déclaration politique également de la part du ministre des Outre-mer qui était hier à Marais. En marge de la fête de l'avocat, Manuel Valls a tenu des propos très politiques en déclarant qu'il croit que, contrairement à ce que l'on dit, on peut mélanger l'huile et l'eau, on peut construire une terre de mélange de culture et de compréhension dans le respect des uns et des autres. Une allusion évidente aux propos tenus par Sonia Baquet en juillet dernier, quand elle expliquait que, au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, elle constatait à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 années de vie commune, des antagonismes encore indépassables. Cela donne une idée de l'ambiance qui va régner à Deva pendant ces 2 jours et demi.
Et cette réunion qui commence cet après-midi à huis clos et la recherche d'un accord, c'est le thème de votre chronique de la semaine écoulée.
Concilier l'inconciliable, c'est le pari que fait le ministre des Outre-mer. Mais ce n'est pas gagné. On a même envie de dire que c'est peine perdue. Concilier l'inconciliable, c'est au mieux une antithèse, voire un oxymore. C'est au pire une contradiction, une impossibilité, un objectif irréalisable. Et pourquoi se fixer un objectif que l'on ne pourra pas atteindre ? Manuel Valls veut concilier l'aspiration à l'indépendance et l'attachement à la France. Et tout cela, dit-il, nous oblige à trouver une voie originale et inventive et à faire preuve de responsabilité. Plus facile à dire qu'à faire, et jusqu'à présent, on a surtout l'impression que l'on tâtonne et que l'on bricole. Le ministre avait proposé un premier projet d'accord politique qui devait être retravaillé et amendé. Mais le FLNKS a déclaré que ce document ne le satisfaisait pas. Le ministre avait promis un deuxième projet, mais malgré ses engagements, il ne l'a pas encore mis sur la table. Il faut dire que d'après ce qu'ont dit ses interlocuteurs, on est encore loin du compte. Ce serait en fait un projet d'indépendance qui évoque la pleine souveraineté, mais en union avec la France. Ce serait un projet qui parle de transfert des compétences régaliennes avec délégation à l'État. Au simple énoncé de ces mots, vendredi matin, les partisans de la France ont exprimé leur profond désaccord et obtenu, après seulement 2 heures de séance plénière, une suspension des discussions. De son côté, le FLNKS s'exprime, et on le comprend, sa satisfaction. Il estime que les discussions en cours avec l'État se déroulent dans un climat respectueux et constructif. En clair, pour l'instant, le projet d'accord satisfait l'un des camps, mais pas l'autre, et l'on n'a rien concilié du tout. Et pourtant, les représentants de l'État pensaient avoir trouvé la formule parfaite. La souveraineté pour faire plaisir aux indépendantistes et des compétences accrues aux provinces pour faire plaisir aux partisans de la France. Ils pensaient que cela suffirait à concilier l'inconciliable. On est d'ailleurs plutôt déçus sur leur capacité à trouver une voie originale et inventive. Parce que l'on a l'impression d'un sinistre retour en arrière. Quand il y a 40 ans, Edgar Pisani se heurtait à la même équation, la France ou l'indépendance, l'indépendance ou bien la France. Et déjà, il proposait la mauvaise solution, celle de l'indépendance association. En 40 ans, l'imagination n'a pas beaucoup progressé au plus haut sommet de l'État. Enfin, pas au plus haut sommet, parce que l'on ne veut froisser personne. Mais il se dit que le président de la République suit de très près ce qui se passe à Nouméa. Et il se dit aussi, mais ce ne sont peut-être que des rumeurs, que lui qui est garant de l'intégrité nationale ne validerait pas un quelconque projet d'indépendance. Mais Manuel Valls et Éric Thiers n'ont pas dit leur dernier mot. À partir de cet après-midi, ils enferment tout le monde sous clé, c'est la signification du mot conclave, pendant 2 jours et demi, pour tenter de concilier l'inconciliable et d'aboutir à un accord. Parce que cet accord, on le sait, le ministre des Outre-mer le veut à tout prix. Il nous a assez répété que c'est un accord ou le chaos. Et ce n'était peut-être pas le bon mot à employer, parce que justement, le chaos, on sait ce que c'est. On l'a vécu il y a près d'un an, et l'on s'étonne même que certains des responsables de ces chaos soient autour de la table, et que le ministre accepte de les associer comme si de rien n'était, à la recherche d'un accord. Mais en 1988, on avait déjà le sens de la formule. Et on avait dit que les accords de Matignon avaient réussi à concilier les antagonismes. C'est plus réaliste que concilier l'inconciliable. Et avec le prolongement de l'accord de Nouméa, ça a donné à la Nouvelle-Calédonie 30 ans de paix et de prospérité. Il reste 2 jours aux délégations pour trouver la formule magique et pour sortir du conclave en annonçant « Habemus Pactum ». Nous avons un accord.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet ou bien à réécouter cet après-midi à 16h après le flash.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Enfermer les délégations calédoniennes en conclave, est-ce selon vous une méthode efficace pour obtenir un accord? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Avant de débuter ces négociations politiques en conclave à Deva, le ministre des Outre-mer s'est rendu ce matin au Medipôle et Anna Colombo à la rencontre du personnel soignant.
Oui, une visite qui a débuté avec une présentation des services cardiologie et hospitalisation, deux services emblématiques du Medipôle. Medipol qui ont dû se réadapter par manque de personnel après les émeutes de mai dernier. La cardiologie n'avait d'ailleurs jamais fait l'objet d'une visite de la part des différentes personnalités politiques qui se sont succédées depuis l'année dernière sur le territoire. Manuel Valls a ainsi pu constater les défis relevés par le Medipol. Puis s'en est suivie une réunion à huis clos avec l'ensemble des professions médicales publiques et privées des trois provinces durant près d'une heure où chacun a pu exprimer ses doléances. Des sujets de fond dont se préoccupe particulièrement l'État, explique Manuel Valls.
Nous allons travailler ensemble. Il y a des conventions possibles sur lesquelles l'État a donné un certain nombre de pistes. Il y a des secteurs qui nous inquiètent encore davantage, je pense, à celui des personnes âgées, des EHPAD, et plus particulièrement également à celui de la pédopsychiatrie, puisqu'il n'y a plus que, de fait, deux médecins, deux pédopsychiatres, alors qu'on sait bien que les questions de santé mentale dans la jeunesse aujourd'hui sont un vrai sujet, dans la rue comme dans le camp Est et d'une manière plus générale. Voilà, c'est cette préoccupation. Si on veut reconstruire dans de bonnes conditions la Nouvelle-Calédonie, il faut d'abord s'intéresser au sujet de la vie quotidienne, au sujet qui préoccupe les Calédoniens, dont celui de la santé.
Près d'un an après les émeutes de 2024, la situation médicale est toujours critique. Le CHT estime entre 20 et 25% son manque de personnel. Une centaine de lits est désormais fermée, faute d'effectifs suffisants. Et il faut ajouter à cela le sentiment d'insécurité, souligne Joachim Tutugoro, directeur du centre hospitalier Nord.
L'amélioration de la condition sanitaire en Brousse ou aux îles, c'est l'attractivité qu'on a. Mais l'attractivité qu'on a, on pourra mettre des niveaux de rémunération qu'on veut. Mais si le sentiment d'insécurité est toujours présent, ça sera difficile. C'est la même constante pour tout le monde, quel que soit le lieu où nous sommes. Même s'il y a un peu plus de professionnels de santé dans le sud, parce qu'il y a une plus large population d'agglomération, mais le ratio, il est quand même bas. Alors s'il est bas dans le sud, vous imaginez dans le nord ou les îles, il n'y a pas de ratio du tout. Mais il est général le problème, hein, c'est pas uniquement dans le nord. Hein.
La possibilité d'établir des conventions avec des établissements publics de métropole et de Nouvelle-Calédonie afin de pallier le manque de médecins fait partie des pistes étudiées par l'État. Mais il existe d'autres solutions. Le docteur Thierry de Grélin est le président du CME, le conseil médical d'établissement du CHT.
Les pistes d'espoir, elles sont dans le recrutement, elles sont dans l'innovation et la recherche parce que c'est ça qui porte les soignants. Elles sont aussi dans l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des salaires. Alors ça fait beaucoup tout ça, ça fait un peu lettre au Père Noël, mais néanmoins il y a des demandes qui sont en attente depuis longtemps, en libéral comme dans le public. Donc on est à une étape cruciale où je pense qu'il y a des actes forts qui doivent être posés pour que les gens aient le sentiment d'avoir pas seulement été entendus mais aussi compris. Je pense que les temps d'échange qu'on a eu étaient vraiment pertinents. C'est vrai qu'on a eu plusieurs ministres qui sont venus. Aujourd'hui, on a parlé concrètement sur des solutions que nous proposons et que nous avons déjà travaillé avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la DAS. C'est le sujet de cette réflexion qui est menée depuis plusieurs mois, qui a été présentée aussi au ministre de l'Outre-mer aujourd'hui.
Une visite qui intervient à la veille d'un mouvement de grève illimité lancé par l'UTCFE-CGC. Elle concerne l'ensemble des personnels de santé du territoire.
Encore une information avant de marquer une première pause dans ce journal avec cette démission technique au Congrès. Le secrétariat général a enregistré la démission d'Inès Coaté de la commission permanente avec effet au 5 mai 2025. Inès Coaté est membre du groupe UNI et c'est Louis Mapou qui va lui succéder au sein de la commission permanente du Congrès. Il est temps de marquer une première pause à 11h44 et on se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés, faisons-les rêver.
Ces affaires...
C'est la suite du journal avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie et cette série d'incendies ce week-end sur le territoire. Trois mineurs ont été interpellés pour avoir mis le feu à un Algeco qui compose la nouvelle structure de BMX à Tina. L'un d'entre eux a avoué être l'auteur de l'incendie pendant la garde à vue. Deux enquêtes ont également été ouvertes pour des incendies dans l'habitation de l'ancien gardien de l'école Gustave Lotz à Logicop et d'un engin de chantier sur le parking de Kenwin hier soir. À une semaine du premier anniversaire de l'insurrection du 13 mai 2024, le procureur de la République déclare qu'il ne s'agit pas d'actes politiques. Yves Dupas était ce matin notre invité.
Ces affaires, ce sont des actes de délinquance. Il faut bien l'intégrer, qui illustre l'état de cette jeunesse désœuvrée, qui se perd dans l'oisiveté, dans l'abus d'alcool aussi. C'était la même chose avec le cambriolage donc dans la maison Magnin sur Païta, l'école de Boulou Paris. On le voit, des jeunes qui se perdent dans des actes de délinquance. Il n'y a pas, par rapport aux procédures qui ont été menées dernièrement, un lien avec l'idée d'action structurée, d'incitation aux jeunes, effectivement, de commettre ces faits. Aucunement, ce sont vraiment des actes de délinquance et qui justifient de notre part une attention particulière et un traitement judiciaire soutenu.
Et concernant le traitement judiciaire des violences qui ont débuté en mai 2024, le procureur de la République affirme que tous les mis en cause auront été jugés d'ici un mois et demi.
Nous sommes dans la dernière ligne droite pour traiter ce volume de 5000 procédures. Il nous en reste à peu près 700. Nous espérons en tout cas, d'ici un mois et demi, achever ce travail de traitement judiciaire hors norme pour nous, avec des renforts qui nous ont été octroyés en magistrats, en fonctionnaires, en officiers de police judiciaire. Ces renforts, nous ne les avons plus désormais, donc nous traitons à moyen constant. Mais c'est effectivement cette dernière ligne droite que nous abordons. Ce fut un traitement vraiment hors norme et qui a mobilisé l'ensemble des acteurs de l'institution judiciaire. Les avocats également, je tiens à le souligner, au-delà des personnels de justice.
Le procureur de la République affirme que la justice continuera à poursuivre ses missions. Yves Dupas note que le traitement des affaires les plus courantes a repris depuis plusieurs mois avec le retour des dossiers de violences intrafamiliales, de délinquance routière ou encore les délits financiers. Dans l'actualité économique, notez que l'IOM baisse une nouvelle fois l'ensemble de ses taux directeurs de 25 points de base, pardon. Une décision qui vise à préserver la liquidité bancaire dans la zone pour accompagner les besoins de financement. C'est la 7e baisse consécutive depuis juin 2024, ce qui correspond en tout à une réduction de 175 points de base, c'est-à-dire 1,75%. L'association des femmes en mouvement, mobilisée dans nos locaux. Depuis ce matin, elles sont présentes à RRB à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Les personnes en situation de précarité ont de plus en plus de difficultés pour se procurer des produits d'hygiène sur le territoire. C'est la raison pour laquelle l'association sollicite votre générosité. Françoise est membre de Femmes en mouvement et elle a lancé un appel aux dons sur notre antenne ce matin.
Nous sommes en opération pour les produits d'hygiène qui deviennent vraiment un gros problème sur le territoire et donc nous faisons un appel concernant les produits d'hygiène pour femmes et hommes. Ces dons vont être donnés donc à la FAC, dans l'épicerie solidaire. Le deuxième, c'est pour le foyer Resnick, où ils ont aussi besoin de produits d'hygiène. Et le troisième sera gardé par les femmes en mouvement pour le distribuer aux gens lorsqu'ils en ont besoin. En priorité, c'est du savon, du shampoing, du déodorant, et puis bien sûr, ce qui concerne les femmes. La priorité, c'est surtout ça. Mais lorsque vous regardez les prix des shampoings, des savons, ou même des produits pour se laver les mains, c'est pas donné. Voilà.
Donc
aussi du papier toilette. Je veux dire, c'est tout bête, mais du papier toilette, c'est quelque chose d'assez onéreux. Et il en faut, ça c'est important aussi.
L'association Femmes en Mouvement vous accueille donc dans nos locaux, 4 rue de Sébastopol à Nouméa, jusqu'à 16h cet après-midi pour déposer vos dons en produits d'hygiène. L'actualité dans la région avec le résultat des élections générales en Australie. Samedi, elles ont reconduit au pouvoir la gauche du Premier ministre sortant, Anthony Albanese. Une victoire nette et sans bavure qui va obliger la droite conservatrice à se reconstruire. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Selon les dernières estimations en date de la commission électorale, les travaillistes auraient déjà remporté 82 des 150 sièges à pourvoir, soit 7 de plus que dans la précédente assemblée. La coalition libérale nationale, de son côté, n'en aurait engrangé que 38, soit 20 de moins qu'il y a 3 ans. Il est donc devenu clair qu'en dépit d'un pouvoir d'achat considérablement réduit et d'une hausse effrénée du coût de la vie, auquel la gauche n'a apporté aucune réelle solution, le Premier ministre sortant, Anthony Albanese, a été réélu sur la seule base de sa popularité. Tout au long de la campagne, il a en effet multiplié les initiatives populistes qui ont fini par convaincre un électorat qui, de prime abord, souffrait de le voir à nouveau triompher. En revanche, son adversaire et leader de la droite, Peter Dutton, n'a affiché aucune stratégie digne d'intérêt et les Australiens l'ont délaissé, au point même de lui préférer une candidate travailliste dans sa propre circonscription. Le plus dur maintenant, pour la droite, va être de lui trouver un successeur et de construire surtout les stratégies qui convaincront à nouveau l'électorat. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h51. Dans un instant, ce sera l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde avant d'ouvrir notre mag des sports du lundi.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec l'actualité en métropole et cette proposition de François Bayrou qui fait beaucoup parler dans une longue interview au journal du dimanche, le Premier ministre évoque la préparation du budget 2026 pour lequel, je vous le rappelle, 40 milliards d'économies ont été annoncées. Il faudra donc faire des choix et François Bayrou entend bien consulter les Français par voie de référendum. Les membres du gouvernement sont chargés de faire avancer cette proposition. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
C'est effectivement une démarche qui permet d'associer tous les Français. Lorsqu'on propose des mesures de réduction des dépenses, chacun se dit « mais pourquoi moi et pas les autres ?»
Agnès Pannier-Runacher, qui était donc l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, émission à retrouver ce soir sur RRB, juste après le journal de 17h45. Si le gouvernement fait bloc derrière le Premier ministre, sa proposition de consulter les Français sur le budget rencontre des réticences, voire des oppositions sur le reste de l'échiquier politique, et notamment du côté des Insoumis, dont Manuel Bompard est le coordinateur.
Monsieur Bayrou s'est pas réveillé ce matin en disant qu'il allait être démocrate. Pour l'instant, les budgets passent par 49.3. Tout le monde voit bien le caractère assez loufoque de cette proposition, parce que quelles questions vous allez poser aux gens? Vous allez leur soumettre un projet de budget, vous allez leur demander s'ils sont pour ou ils sont contre.
Et notez que le choix du recours au référendum ou non est de la responsabilité du chef de l'État. Les faits divers en métropole avec une nouvelle fusillade à Rennes. Deux jeunes garçons ont été blessés par balle dans ce que les enquêteurs considèrent comme un règlement de compte autour du trafic de drogue. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Les victimes âgées de 16 et 17 ans ont été touchées aux jambes. L'une d'elles se trouvait hier soir en urgence absolue. Au total, une quinzaine de coups de feu ont été tirés dans le quartier de Villejean. Frédéric Gallet, secrétaire départemental Alliance 35.
Selon les témoins et les victimes, trois individus seraient l'auteur de coups de feu et de violences. Malheureusement, malgré tout le travail des collègues qui sont présents sur cette dalle et sur les points de deal, les expéditions punitives et les démonstrations de force pour le narcotrafic se poursuivent.
Cette attaque intervient trois semaines seulement après une première fusillade au même endroit. Charles Compagnon, président du groupe d'opposition Agir pour Rennes, était présent durant ces échanges de tirs en avril dernier. Il dénonce les failles de la politique menée par la mairie.
Ces règlements de compte se sont intensifiés. C'est l'échec d'une politique sur des dizaines d'années, de manque d'anticipation
frustration, de non-volonté politique, par choix idéologique et arbitrage, la majorité actuelle ne fait pas les choix qui permettraient d'améliorer la sécurité à Rennes. Ce sont des arbitrages financiers.
Les quatre hommes âgés de 21 à 23 ans suspectés d'avoir formé ce commando ont été mis en examen et écroués.
Toujours en métropole, deux nouvelles personnes interpellées après l'enlèvement d'un homme en plein Paris jeudi dernier qui a ensuite été séquestré dans l'Essonne pendant deux jours. Ses ravisseurs voulaient soutirer de l'argent à son fils qui a fait fortune dans la crypto-monnaie et qui sont la cible d'actes de violence de plus en plus nombreux, explique Maître Antoine Chéron. Il est avocat spécialisé dans les crypto-monnaies.
On a souvent affaire à des personnes relativement jeunes. Ils sont très médiatiques. Ils ont un patrimoine qui est extrêmement connu. Ils suscitent des convoitises. Et puis malheureusement, il y a des gens qui sont mal orientés et qui veulent obtenir ça. Et on est sur des actes qui sont odieux et extrêmement violents.
L'homme qui a été enlevé a été libéré après l'intervention de la BRI. En tout, 7 personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire. Aucune rançon n'a été versée. Cette rançon, c'est ce qui attire les malfaiteurs parce que les crypto-monnaies sont intraçables, souligne Maître Chéron.
S'ils ont été intelligents, ils ont demandé à ce que ces millions d'euros soient donnés dans une crypto, qu'ils soient mis sur une clé USB. Ils récupèrent cette clé et n'importe qui détenteur de cette clé est capable d'acquérir ce patrimoine. Donc si vous mettez 10 millions d'euros sur une clé pour la dépenser dans n'importe quel pays dans le monde, personne ne va pouvoir voir que vous êtes le détenteur de la crypto-monnaie.
Et les ravisseurs avaient réclamé plusieurs millions d'euros de rançon. À l'étranger, Benjamin Netanyahou réunit en ce moment son cabinet de sécurité. Il s'agit d'envisager l'ampleur de la riposte après qu'un missile tiré par les Houthis ait atterri dans la zone de l'aéroport de Tel Aviv. 6 personnes ont été blessées. De nombreuses compagnies aériennes ont pour l'instant suspendu leur liaison avec Israël. Xi Jinping attendu à Moscou dans les jours qui viennent. Le président chinois a été invité pour les festivités de commémoration du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et puis à Rome, on se prépare au conclave, le vrai, celui qui va permettre aux cardinaux d'élire le successeur du pape François. Il doit s'ouvrir donc mercredi à Rome. Il fallait attendre pour cela un délai après la mort du pape. Louis Salé pour Europe 1.
C'est la fin de cette période de deuil qui dure 9 jours à compter des funérailles du pape. Une dernière messe a donc lieu ce soir en mémoire de François dans la basilique Saint-Pierre à 17h, concélébrée par le cardinal français Dominique Manberti. Et juste derrière, accolée au musée du Vatican, la chapelle Sixtine est prête. 133 cardinaux électeurs s'y rendront mercredi après-midi pour débuter le conclave. La fameuse cheminée a été installée il y a 2 jours. C'est un fin cylindre métallique brun couvert d'un capuchon. Elle est reliée à l'intérieur de la chapelle à un poêle où seront brûlés les bulletins de vote. C'est le camerlingue qui assurera cette mission, le cardinal Kevin Farrell, chargé de la gestion administrative du Vatican. Pendant chaque conclave, à l'issue d'un vote, si les 2/3 des cardinaux ne se sont pas mis d'accord sur un même nom, la fumée qui sort de cette cheminée est noire. Dans le cas contraire, si un pape est élu, elle est blanche grâce à l'ajout de colorants chimiques. La fumée est visible par les fidèles depuis la place Saint-Pierre. Il faudra donc guetter sa couleur à partir de mercredi soir à l'issue du scrutin.
Il est 11h58, la fin de ce journal.